Frontière à NASA numéro 1. Roger, contact BDSI. Ok, contact soupape Cop Moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger, tableau intérieur et extérieur allumé. Amorce des piquets. Oscar, j'écoute. Extinction. Danger 3, ramené point 0. Latéral ne répond plus, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture...
Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant.
À l'heure actuelle, les chercheurs qui s'occupent de bionique se consacrent surtout à la construction de modèles qui imitent les systèmes de perception des végétaux et des animaux. Aujourd'hui, l'identité de principe entre l'orientation des chauves-souris à l'aide d'ultrasons émis par elles et les installations de radars est presque un lieu commun. Les anguilles utilisent le même principe. La détection dont sont capables les papillons et les insectes à l'aide d'ondes courtes ou celle des lucioles au moyen d'ondes lumineuses repose également sur un principe de repérage connu. Ces bêtes utilisent ces rayonnements surtout dans la recherche des femelles, mais les papillons l'utilisent également dans la recherche de la nourriture.
Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Presque tous les animaux ont des propriétés qui sont intéressantes pour l'homme. Entre les ouvertures nasales de certaines espèces de serpents, on trouve des organes particuliers qui perçoivent la chaleur. Des recherches intensives sont en cours pour les étudier, car ils fonctionnent avec plus de précision que n'importe quel thermistor ou élément thermopercepteur construit par l'homme.
C'est en voie, c'est en train de se faire. Les nanotechnologies, les prothèses, c'est un peu l'avenir de l'homme aussi.
Nicolas a été amputé il y a 15 ans, suite à un accident de la route. C'est depuis peu qu'il accepte de porter une prothèse. Pas esthétique, peu pratique. Il a toujours trouvé qu'elle le limitait dans ses gestes.
On peut faire différents types de prises. Par exemple, que l'index. C'est une prise très proche comme ça. Si on la fermait tous les doigts sauf l'index, il y a toute une série de différentes prises voilà, qui peuvent être utiles dans différents scénarios. Donc, tenir une souris, par exemple, donc ce que je vous ai montré ici. Ou on peut imaginer... une prise plus globale comme celle-ci pour tenir un objet plus lourd, par exemple. Et on peut pointer du doigt, différentes choses comme ça.
L'homme qui scrute la nature s'étudie lui-même également pour construire des engins qui pourront, avec le temps, remplacer ses organes usés. Et il faut insister sur le fait que les modèles de la bionique peuvent être non seulement électroniques, mais aussi pneumatiques, mécaniques et hydrauliques. Une valvule cardiaque artificielle est un dispositif mécanique. Le moteur qui remplace le cœur dans la chirurgie cardiaque est une construction hydraulique. Pourquoi ces instruments répondent-ils si bien à l'objectif qui est de sauver des vies humaines? Parce qu'on a appliqué dans leur construction les mêmes principes de biologique qu'appliquent leurs prototypes naturels, le cœur, les poumons, les reins humains.
Il y a tout juste un an, Nicolas découvre l'histoire de Priscille, peintre, elle aussi amputée. Première femme à avoir été opérée en France pour bénéficier d'un bras bionique, contrôlé par la pensée. Impressionné par les possibilités que lui offre sa prothèse, il l'appelle et en quelques jours, sa vie bascule.
J'étais mécanicien de maintenance, jeune ouvrier en fait, j'avais 18 ans, j'étais ouvrier depuis un an et puis sur mon lieu de travail, j'ai fait une erreur de manipulation qui m'a été fatale. Voilà, j'ai été amputé d'une main une semaine après. Et deux semaines après, j'ai commencé une rééducation pour être appareillé d'une prothèse myoélectrique. Donc c'est une prothèse de main qui permet de retrouver une autonomie et qui est contrôlée par les contractions du bras et qui bouge électriquement.
Pour les réactiver, un nerf, il a besoin d'avoir un substrat qu'on appelle un muscle. Donc on va chercher ces nerfs et on va trouver des muscles aux alentours pour venir donner la possibilité à ce nerf, au muscle, puisque le nerf a besoin de donner son action à un muscle. Le muscle va se recontracter et ça va permettre donc de réactiver toute la chaîne jusqu'au cerveau.
L'opération est programmée pour lundi prochain. Après, Nicolas sait que le parcours sera long. Il faudra encore 2 ans de rééducation pour que son cerveau apprenne à commander son nouveau bras.
J'aimerais bien l'idée de sécuriser mon corps. Alors pas pour l'immortalité, mais plutôt pour augmenter la durée peut-être, par envie de voir jusqu'où on va quand même aller dans les décennies à venir. Donc c'est plus une question de capacité de réorganiser, de réviser la machine humaine, mécano-animale, quoi.
Cependant, les spécialistes de la bionique étudient également d'autres facultés de l'homme, par exemple le processus de la vision. 2 thèmes sont particulièrement étudiés. Le premier est la perception des formes. On cherche les processus qui nous permettent, par exemple, de reconnaître les différentes lettres et d'affirmer, mettons, que des lettres A différentes sont des lettres A, même si elles diffèrent par leur dimension ou dans leur forme. Lorsque nous parviendrons à trouver la biologique de cette perception des formes, nous serons capables de construire des machines lectrices qui transformeront les lettres en sons articulés. Le temps peut donc venir où nous placerons le livre à lire dans une machine et, après sa mise en marche, nous entendrons le texte comme à la radio.
Quand j'ai eu mon accident, j'étais très déçu de voir la main qu'il existait, la prothèse, puisque c'est un mouvement très basique, un mouvement simple, on va dire. Et donc, il y a 5 ans, sont apparues de nouvelles prothèses, parce qu'auparavant, il n'en existait qu'un modèle. Étant donné que c'est un handicap très rare, il n'y a pas assez de recherche dans ce domaine. Donc, sont apparues de nouvelles prothèses qui bougeaient tous les doigts, et forcément, j'étais séduit, je voulais en bénéficier. Sauf que, en me renseignant auprès de mon prothésiste, j'ai appris que c'était pas remboursé par la sécurité sociale et que ça coûtait 30 000 euros.
Ça, c'est vraiment une main robotique qui a 5 doigts actués, donc chaque doigt a son propre moteur qui permet de bouger le doigt correspondant de manière indépendante. Donc c'est vraiment ce qui se rapproche le plus actuellement d'une main humaine, disons, parce que la main humaine, bien sûr, a une richesse de mouvements, donc qui lui permet de faire plein de différents types de mouvements. Cette main, de par sa construction, justement, avec un moteur par doigt, arrive quand même à répliquer un certain nombre de ses fonctions de manière assez fidèle, disons. Et ce qui est particulièrement bien avec cette main, c'est sa taille qui est assez réduite. Donc vous voyez, c'est à peu près la taille d'une main moyenne, disons. Et puis, elle est relativement légère. Elle pèse 400-500 grammes, ce qui peut paraître lourd quand on la tient dans la main, mais ce qui est en fait le poids, un petit peu plus, mais à peu près le poids d'une main humaine.
Des victimes d'une pathologie qui s'appelle, je crois, l'achromatie, donc ne voit pas les couleurs. Et à la suite, il avait assisté à une conférence, il a pris contact avec quelqu'un, puis une autre personne, et ils ont mis au point ensemble un système qui retraduit les ondes électromagnétiques, enfin le spectre visuel, en ondes sonores. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a appris peu à peu à interpréter ces ondes sonores en couleurs.
Et puis, dans le Fab Lab, en fait, on a l'accessibilité aux machines. Donc, on retrouve surtout des machines numériques, comme des imprimantes 3D, mais aussi il y a une découverte du monde des logiciels libres, donc tout ce qui est open source. Mm-hmm. Et donc, la condition pour pouvoir avoir un projet porté par le Fab Lab et d'avoir accès aux machines, la condition, c'était de le rendre open source. C'est-à-dire que, en échange, je m'engage à le documenter, à dire tout ce que j'ai fait et à permettre à d'autres personnes, en fait, de pouvoir travailler dessus. Alors, ce qui fait que, comme moi, je suis arrivé en disant que je voulais fabriquer de ma robot, une prothèse, ils m'ont dit, écoute, si tu fabriques ta prothèse, tu vas permettre à d'autres personnes dans le monde d'y avoir accès.
Une main bionique, parce qu'elle permet de faire justement cette interface entre l'homme et la machine. Donc, ce n'est pas seulement un outil qu'on va contrôler, comme externe à notre corps, mais c'est quelque chose qu'on va venir intégrer dans notre schéma corporel, si vous voulez, et on va vraiment essayer de remplacer le membre manquant, dans ce cas-là de la main, et vraiment d'avoir ce flux d'informations, comme on dit, bidirectionnel, donc et de notre cerveau vers la machine, donc c'est ce qui va nous permettre de la bouger quand on décide et comme on décide, et puis aussi dans l'autre direction, pour nous redonner une sensation tactile, une information de toucher.
Nous comparons souvent le microphone à l'oreille. Et à juste titre, car il en est le modèle. Des investigations sont en cours pour déterminer les relations qui existent entre l'oreille et, par exemple, la dactylographie. Il serait merveilleux de construire une machine à écrire qui n'aurait pas besoin de dactylo. Il suffirait de dicter dans un microphone le texte à copier que la machine écrirait automatiquement sous l'effet des sons. Certes, la bionique utilise surtout des éléments électroniques dans la construction des modèles. Cela s'explique par plusieurs raisons. Les éléments électroniques se plient aisément à la miniaturisation. Ils sont donc plus près des dimensions des éléments biologiques. Ils fonctionnent au courant électrique, ce qui n'est pas étranger aux êtres vivants.
La bionique, c'est simplement observer la nature et essayer de la reproduire.
Par définition, si vous voulez, si on essaye de réparer un organe, c'est qu'il est défectueux. Donc il est logique d'essayer de faire mieux. Sinon, on ne voit pas où serait le bénéfice thérapeutique. Pour autant, on ne vise pas non plus toujours la perfection et la restitution d'une fonction strictement normale telle qu'elle était à la naissance du patient.
Nous avons déjà des excitateurs des battements du cœur, des pacemakers dont le système électronique est alimenté par l'électricité corporelle. Il est donc certain que l'électronique supplantera de plus en plus les modèles mécaniques. Mais ne soyons pas injustes. Ce sont ces modèles qui nous ont fourni les éléments du départ. Les possibilités prometteuses que nous offre la bionique sont réalisées en nombre de plus en plus élevé. Mais l'idéal serait de pouvoir construire des modèles conformes au processus biochimique. Par exemple, une cellule artificielle qui devrait être presque identique aux cellules de notre corps, tant par ses dimensions que par son fonctionnement et ses effets. Nous pourrions alors remplacer des cellules cancéreuses par des cellules artificielles. Mais restons sur Terre et ne soyons pas trop impatients. Les chercheurs font de leur mieux pour appliquer les principes de la bionique dans les domaines les plus divers et pour venir en aide à l'homme par le moyen de ces merveilleux modèles.
Là, j'ai un gant de protection justement pour protéger la prothèse, pour pas qu'elle prenne trop de poussière.
L'homme que l'on répare comme une voiture. Il n'y a que l'intelligence que l'on ne peut pas changer, mais ça viendra peut-être. En attendant, il faut voir l'homme réparé. C'est le nom de l'exposition qui s'ouvre jeudi prochain à la Cité des Sciences à la Villette.
Ok, Glass, record a video.
This is it. We're on in 2 minutes.
Ok, Glass, hang out with the flying club.
You ready?
L'homme qui valait 100 millions de dollars, peut-être l'avez-vous vu à la télévision, c'est l'histoire d'un ancien pilote de chasse à qui on a remplacé artificiellement toutes les fonctions vitales après un terrible accident. Du coup, l'homme devient presque un robot vivant, un surhomme aux forces décuplées, capable de tous les exploits. C'est du cinéma bien sûr, mais petit à petit, grâce au progrès de la science, la réalité se rapproche de la fiction.
Moi, je travaille vraiment dans ce qu'on appelle les neuroprothèses. Donc, c'est des robots au service de l'humain pour réparer, augmenter aussi potentiellement. C'est effectivement un autre débat que les robots indépendants qui sont vraiment autonomes et qui peuvent prendre des décisions, etc.
Quel que soit le monstre, la créature, l'ennemi, à chaque fois, c'est un miroir de nous-mêmes. Et ces robots, exactement comme dit James Cameron, ce qu'ils incarnent, c'est la peur que ces technologies nous transforment en robots, fassent de nous des gens, robotisés. C'est valable pour tous les monstres.
Il avait fait une petite étude intitulée « Les cyborgs ont-ils une âme ?» pour, d'après ce que j'ai compris, une exposition qui s'appelait « Mécanopholie », qui a été publiée en 1999, où il fait un petit peu l'historique. Et effectivement, lui remonte en effet à « The Man That Was Used Up » de 1839. Mmh. Il cite aussi, alors ça c'est plutôt du côté en fait visuel, et je pense que de façon générale, la dimension visuelle de la culture cyborg est extrêmement importante. Il cite donc une illustration qui est le concert à vapeur de Delors et Granville, et qui date de 1844, où en gros c'est des... Ce sont des instruments de musique, mais qui ont des têtes, qui sont des mélanges en fait entre humains et instruments de musique.
À quel moment la notion de cyborg est apparue ? C'est apparu dans les années 60. Cyborg, c'est la contraction de cybernetic organism. Et cette notion est apparue à un moment donné où on s'est mis à imaginer que l'on pourrait entreprendre de très longs voyages interplanétaires. Et la question, le maillon faible qui apparaissait dans ce cas-là, c'était les êtres humains à l'intérieur de ces vaisseaux spatiaux, parce qu'ils se retrouvaient dans des environnements qui ne sont pas du tout faits pour la vie humaine. Alors, soit on faisait d'énormes efforts technologiques pour recréer artificiellement un milieu qui ressemblait au milieu terrestre pour permettre aux hommes de faire ces longs voyages. Ou alors l'autre idée qui avait été émise, c'est non, transformons l'homme lui-même pour qu'il devienne viable à l'intérieur de ces environnements hostiles.
Les transhumanistes sont des gens qui considèrent que les sciences et les technologies d'aujourd'hui nous rendent capables d'augmenter l'humain, de l'augmenter, de le doter d'un certain nombre de compétences sensorimotrices ou de facultés cognitives nouvelles.
Ce qu'on appelle les transhumanistes ont pris le chariot, le mouvement vers le futur d'assaut avec des sensibilités très diverses. C'est un mouvement très hétéroclite, avec l'idée quand même d'en faire profiter l'humanité.
En Chine, un régime tout à la fois communiste et capitaliste, ce qui paraîtrait inédit à Orwell, expérimente la notation sociale avec des critères et des registres de punition repensés à l'image du XXIe siècle. Qui n'a pas le bon comportement sera par exemple privé de voyage. Ici, ce sont les GAFA qui amassent les données personnelles nous concernant. Il faut savoir que leur patron voudrait nous voir en sujet bionique, appelé à se nourrir de viande synthétique. Les sémillants jeunes gens de la Silicon Valley ne sont pas nécessairement les meilleurs amis de l'homme, ni non plus des animaux.
Malgré elle, cette humanité qui est menacée et qui est exposée à des risques en courra sûrement bien d'autres, on en parlera probablement, en utilisant ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé les converging technologies, qui ont beaucoup influencé les scientifiques américains, et notamment les politiques qui sont saisis de ça. Ben Bush a voté un crédit au départ en 2002 de 2 milliards pour développer les technologies convergentes, c'est-à-dire NBIC, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, technologie d'informatique et technologie du cerveau.
Il y a une version radicale de ce transhumanisme qui dit qu'on va faire beaucoup plus avec nos technologies. On va faire en sorte de préparer l'émergence d'une espèce nouvelle, l'émergence d'un quelque chose d'inédit. C'est la rupture que certains appellent la singularité, précisément, qui va constituer comme une espèce de fracture dans un continuum où jusqu'à présent, l'humain n'a cessé de s'améliorer d'une certaine manière. Depuis l'invention des premiers outils, il s'est perfectionné. C'est un être indéfiniment perfectible, comme disait Rousseau. Mais là, on va un peu plus loin, même beaucoup plus loin, puisqu'on va créer cette rupture.
Parce que quand on parle justement des gens qui croient dans les singularités, etc., sont des illuminés à l'état pur. C'est quand même la même logique que, vous savez, à l'arrière des chariots, les gens qui vous vendaient de l'élixir pour faire repousser les cheveux. Là, ils vont nous empêcher de mourir, ils vont nous rendre bons, ils vont nous rendre machin. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et en Europe, et je pense que l'Europe continentale est très résistante à ça. Et je pense qu'on est à l'abri. Et la sociologie des transhumanistes que je connais ici, là, ce sont des membres de Mensa Plus, ou Mensa Plus, j'en sais rien, qui ont peur d'attraper la maladie d'Alzheimer et qui sont prêts à autoriser toutes les déviations et les expérimentations humaines pour échapper à leur propre maladie neurodégénérative. Donc la sociologie est inquiétante.
On part du fait que l'intelligence artificielle est méchante et qu'elle veut détruire l'humanité. À partir de ça, on bâtit des trucs formidables. Mais voilà, ce point de bascule, alors on va dire que c'est la singularité.
Frankenstein, on a une situation qui continuera de mettre en présence l'humain et la machine, alors qu'avec le post-humain, on aura une situation où l'humain aura laissé la place à quelque chose d'autre que lui.
Pour les gens qui développent de l'intelligence artificielle, c'est un peu dur de comprendre comment on va en arriver là.
C'est la fonction de mythopoïèse de Frankenstein, c'est-à-dire c'est véritablement la création d'un mythe. Et cette fonction, donc, du coup, évidemment, toutes ces déclinaisons par la suite sont peut-être même plus intéressantes que l'œuvre elle-même. Il me semble aussi que un des thèmes fondamentaux, c'est quand même celui du rapport de la machine à la vie et du don de la vie avec ce rêve qui est peut-être un rêve très masculin d'utiliser la technologie pour créer une forme de vie, voilà, ce qu'aucun homme n'est capable de faire, de fabriquer la vie en lui.
Au départ, l'androïde était un type de robot. Le robot étant entièrement mécanique et ayant l'apparence de la machine, alors que l'androïde était un être artificiel qui avait l'apparence de l'humain. Donc déjà, ça se troublait, alors que le cyborg, c'est un humain qui est né humain et qui a évolué et à qui on a, entre guillemets, ajouté des éléments ou remplacé des éléments par des éléments mécaniques.
On se rend compte qu'étrangement, l'homme ou la femme augmentée est d'abord, avant tout, réparée.
On n'impose pas une augmentation des performances à un corps en pleine forme, on l'attribue à un corps qui est d'abord victime d'un accident gravissime. C'est le cas de Rod Bukop, c'est le cas de Steve Austin et Super Jamie. La science sauve de la mort un organisme accidenté et ensuite elle le remet sur pied avec quelques compétences supplémentaires bienvenues. En fait, c'est une grosse astuce de scénariste pour échapper à tout le débat éthique que nous sommes en train d'avoir.
C'est dans la mythologie de la cybernétique et du transhumanisme, c'est un moment où une machine est capable de faire une machine plus compliquée qu'elle-même, plus performante qu'elle-même. Et à ce moment-là, on estime qu'on ne sera plus capable de prévoir ce qui va se passer et surtout que l'humain va être très 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 vite complètement dépassé.
On se rend compte que la science-fiction va devenir fiction et que finalement les plus grands scénarios, que ce soit de bandes dessinées ou de films en fait, ont déjà été écrits il y a quelques années et ils s'apprêtent à devenir quelque part réalité. Et c'est vrai que du coup le champ des fantasmes est assez vertigineux et il fait aussi peur qu'il est stimulant. Moi je vous cache pas que je suis assez stimulé en fait par tout ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici quelques années. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça va poser un défi en fait aux scénaristes et aux créateurs, puisque quand ils vont être rattrapés justement par ces réalités, il va falloir injecter de nouvelles visions dans un genre qui du coup va progressivement en fait s'assécher, à savoir la science-fiction.
Il faut souligner que James Cameron a été en partie critiqué parce qu'il a des inspirations qui n'ont pas été tout de suite reconnues. On peut citer Cyborg 2087, qui est un film de 1966, dans lequel on a un cyborg du futur qui remonte le temps en 1966 pour empêcher un scientifique d'avoir une invention qui va changer l'histoire. Donc c'est une histoire assez similaire. Et puis il y a Harlan Ellison, bien sûr, grand auteur de science-fiction, qui a porté plainte contre Cameron et qui l'a accusé de plagiat. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit son nom apparaître au générique, on reconnaît officiellement l'influence d'Ellison.
Et c'est comme ça que l'homme diminué a donné naissance à l'homme augmenté. C'est toujours dans le handicapé qu'on a puisé pour pouvoir promouvoir l'homme augmenté. Toute la fiction le révèle aussi. Le film Avatar, c'est un handicapé. Robocop, c'est un handicapé. Donc on puise dans le handicap pour saisir l'occasion d'utiliser les adjuvants technologiques pour booster la prothèse. Et ça, c'est une autre posture philosophique par rapport à la technique. La technique n'est plus pensée comme le prolongement, mais la technique, elle est pensée comme l'instrument même de la transgression. Et la technologie est devenue aujourd'hui une culture de transgression. Le technoprogressisme est en réalité un technotransgressisme.
C'était une projection, mais qui ne s'est pas beaucoup trompée, en fait, enfin, sur pas mal de sujets. Et c'était une projection. Et en ce sens, c'était très intéressant. C'était très très bien vu et c'était largement au-dessus de ce qu'on savait faire à l'époque.
Savoir ce que l'on pouvait bien perdre lorsque l'on augmentait l'humain. Parce qu'on voit ce qu'on peut gagner, effectivement, si l'humain augmenté a plus de 500, s'il en a 12, s'il en a 15, il a d'autant plus de fenêtres ouvertes sur le monde et il va avoir la perception d'un monde totalement différent. Et ça, c'est exaltant, c'est extraordinaire. C'est une source, à mon avis, effectivement intarissable pour les auteurs de science-fiction. C'est fantastique.
Moi, j'adore les menus déroulants qu'on voit dans les yeux de Cyborg. Et ça, c'est à la fois nul parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la tête d'une machine, enfin dans le cerveau d'une machine. Mais c'est en même temps génial parce qu'on voit tout de suite que c'est quand même programmé, informatisé. Donc c'est une trouvaille cinématographique, je trouve, qui est vraiment bien pour montrer que c'est une programmation, des choix qui sont faits. Enfin, c'est un très très bon rendu, je trouve, cinématographique.
Je peux pas broyer une main, on va dire. La prothèse, elle est faite pour ça, en fait. Dès que ça force un peu, ça se bloque.
Elle arrive à générer une 10-15 kilos de force, à peu près. Une main saine, humaine, peut aller jusqu'à 40-50, mais comme elle est molle, disons, comme il y a la peau, ça paraît moins impressionnant. Alors qu'ici, comme elle est toute rigide, ça paraît beaucoup plus fort, en fait, quand on le sent.
Comme tous les athlètes en vue d'une compétition mondiale, ils s'entraînent depuis des mois. Comme les champions olympiques ou paralympiques, ils ont leur coach, leur médecin, leur kiné, leur supporter. Mais eux sont également entourés d'une équipe de scientifiques et d'ingénieurs à l'origine des prothèses et des dispositifs technologiques qu'ils vont utiliser pour les épreuves. Le cybathlon, ce sont 6 disciplines, parmi lesquelles la course d'exosquelette, la compétition avec prothèse de main ou de jambe, ou encore le vélo, assisté par électrostimulation simulation pour les personnes tétraplégiques.
L'exposition qui s'ouvrira à la fin de la semaine à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris en est la formidable illustration. Baptisée « L'homme réparé », cette exposition permettra de se rendre compte de tous les trésors d'ingéniosité que des médecins, des électroniciens, des mécaniciens ont développés pour venir en aide aux personnes handicapées. Il y en a 5 millions aujourd'hui en France. Les unes victimes d'une anomalie de naissance, les autres frappées par un accident, mais aussi celles qui ont pris de l'âge, tout simplement.
C'est évident que s'il vous manque un bras et qu'on vous met une prothèse bionique à la place, on remplace un membre qui manquait. Ce qu'il faut voir, c'est que cet argument, c'est le premier pas d'une tendance à l'œuvre qui va vers toujours plus de performance. Parce que finalement, à l'heure actuelle, on a un glissement qui s'opère entre une médecine qui répare et une médecine qui augmente. Et le fait même de dire « réparer et augmenter » montre qu'on est dans un imaginaire mécaniste. L'humain est considéré comme une machine où on peut avoir des pièces de rechange. Si une pièce est abîmée, on n'a pas de problème dans notre imaginaire.
Pour bien repréciser, hein, c'est vraiment collaboratif, que c'est pas moi qui l'ai fabriqué, mais moi je participe à la fabrication et j'aurais jamais pu aller jusque-là sans les autres. En fait, c'est là que c'est intéressant. En fait, c'est que ça nous rappelle que tous ensemble, en fait, on peut faire plein de choses. Et aujourd'hui, on en est au stade du prototypage. C'est-à-dire qu'on on s'intéresse non plus à la main robot, mais cette fois à la prothèse. Et on est en cours de développement. On a créé une association qui s'appelle My Human Kit, donc Mon Humain Kit. Et cette association porte le projet Bionico, et qui est là pour but de permettre à d'autres personnes handicapées de se prendre en charge et d'agir elles-mêmes sur leur handicap.
C'est un exosquelette, vous l'enfilez par-dessus votre pantalon de ski ou, alors là c'est plus délicat, entre le collant et le pantalon.
Oui, vous pouvez la mettre même la peau, mais c'est moins agréable. Effectivement, cet exosquelette procure un soulagement au niveau articulaire et musculaire. Il permet d'allonger l'endurance.
L'homme bionique, celui des films de science-fiction, existe réellement. Tout a commencé il y a bien longtemps, le jour où on a remplacé une dent par un morceau d'ivoire taillé. Aujourd'hui, des articulations complètes peuvent être changées, des hanches, des genoux, des épaules. On en voit de tous les modèles dans les vitrines de la Villette. Un casque muni d'un émetteur-récepteur à ultrasons permet à des enfants aveugles de voir littéralement avec leurs oreilles.
Disons, limitons-nous à un petit catalogue pris comme ça un peu au hasard dans des réalisations qui recopient strictement des modèles naturels. Donc disons qu'il serait vraiment de la bionique au sens le plus précis, le plus étroit du mot. Il y a une chose assez amusante, vous savez que les mouches stabilisent leur vol avec deux tout petits balanciers qu'elles ont à côté des ailes. Eh bien on a réalisé un gyroscope qui dans le fond s'inspirait directement de ce balancier des ailes de mouche.
L'homme fait de la bionique depuis fort longtemps, puisque Léonard de Vinci, par exemple, avait copié des modèles de chauves-souris pour imaginer des engins volants. Mais il est évident que lorsque Ettrich, par exemple, et son fils ont copié une graine pour faire le premier planeur sans queue, ils faisaient également de la bionique.
Vous savez, quand vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur et que vous ne voyez que la calandre du 30 tonnes qui vous bouge complètement la vue, eh bien, grâce à votre vision bionique, vous pourrez le rendre invisible et voir ce qui se passe derrière lui. Ça sera très pratique.
L'homme augmenté, il existe dès aujourd'hui. Il suffit de penser aux exosquelettes qu'utilisent des militaires, par exemple, pour se mouvoir dans le champ de bataille avec des équipements de plus en plus lourds. Et ça a des tas d'applications, pas seulement d'ailleurs dans la vie militaire, mais évidemment ça peut aussi servir pour soulever des charges dans l'industrie, par exemple. Donc ça marche, ça augmente les capacités humaines. Maintenant, si on parle d'augmenter, par exemple, la capacité de notre système visuel en intervenant à l'intérieur de lui, là, c'est une autre paire de manches. On fait des rétines artificielles aujourd'hui, leur résolution est 1 000 ou 10 000 ou 100 000 fois inférieure à celle d'une rétine réelle.
La politique financière de la firme est de dire qu'ils vont privilégier une autre voie de stimulation, qui est la stimulation corticale. Alors là, c'est un défi extrêmement ambitieux, mais qui permettrait de s'adresser à toutes les causes de cécité, c'est-à-dire pas uniquement la rétinopathie pigmentaire. Alors la DMLA, c'est sûr que c'est beaucoup plus élargi comme spectre, mais là, ça s'étendrait aussi au glaucome, au diabète, à la myopie forte et aux causes traumatiques.
Alors ça marche comment ? Eh bien, c'est simple, vous avez un harnais léger que vous passez sous les fesses, un connecteur posé sur la chaussure de ski et entre les deux, une genouillère articulée qui contient un puissant ressort. Cette genouillère en néoprène, contrairement à une protection classique que vous aurez conseillé oublier votre kiné. Elle va plus loin puisqu'elle augmente vos capacités, elle compense celles que vous avez perdues. Un tiers du poids du skieur est ainsi pris en charge. C'est un peu une orthèse bionique. Il serait bon que l'homme n'oublie pas que ce qui constitue l'essence d'être un être humain, c'est de ne pas chercher la perfection. George Orwell.
J'ai même envie de dire, paradoxalement, qu'on invente des handicaps. Parce que finalement, si vous avez une main bionique qui vous offre plus de potentialité qu'une main naturelle, finalement, c'est le porteur de main naturelle qui en viendra à être considéré comme handicapé parce qu'il pourra faire moins de choses.